Ce matin, je ne vais rien apporter de nouveau. Vous savez, de temps en temps, il faut faire une pause dans les apports et de faire comme les vaches, ruminer ce que nous avons pris dans le pré pour que ça puisse produire du fruit. J'ai abordé trois choses que nous avons entendues ces derniers temps, récemment, pour que je puisse simplement les redire à ma manière, mais sans apporter quoi que ce soit de nouveau. Le premier, c'est les dons, sur lesquels Michel a prêché deux fois. C'est le mois dernier, puisqu'on est le premier, c'est le mois de novembre. Deux fois sur les dons. Je voudrais juste récapituler ce qui, moi, me paraît important de retenir et de mettre en pratique. Le deuxième, c'est la fin du premier cycle sur l'étude du royaume de Dieu, qui s'est terminé hier soir, qu'on a commencé le 21 mars, si je me souviens bien, de l'année de cette année. Et qui est aussi un cycle qui se termine. Et on va avoir un autre cycle l'année prochaine pour ceux qui veulent creuser un petit peu davantage. Parce que, vous savez, c'est un puits sans fond, là, le royaume de Dieu. Nous serons dans l'éternité avec lui et il va régner, comme il règne aujourd'hui. Mais tout ça, ça permet de creuser la parole. Et la troisième, c'est sur ma rôle dans C'est la vie, qui était là présent donc en début du mois dernier. Et je voudrais dire un mot donc sur ces trois éléments. Alors le premier, c'est les dons. On va lire dans Éphésiens, pour moi c'est un texte fondateur sur les dons, dans Éphésiens 4, et je lirai à partir du verset 7. Voilà ce que je lis dans la Bible Second. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs et il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. C'est lui qui a donné, donc on retrouve le don, hein, en grec c'est charisme. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, etc., pour le perfectionnement des saints, c'est là en vue de l'œuvre du service et de l'édification du Christ. Michel a dit plusieurs choses qui me semblent importantes. Le don, c'est de manifester l'Esprit, le Saint-Esprit, pour le bien de tous et de tout. De tous, de tout, voilà. Donc ça, c'est l'objectif. Dans l'Église, le Saint-Esprit accompagne la croissance, pas forcément numérique, elle est aussi numérique, mais surtout la croissance organique, la croissance en maturité de l'Église, chacun de nous. Donc c'est pour le bien de tous. La deuxième chose, c'est que Michel aussi nous a dit, dans un passage, ne vous lassez pas de faire le bien. Hein ? Donc le don, c'est aussi quelque chose qui nous est donné pour faire le bien, non pas simplement pour participer au bien de tous, mais pour faire le bien et de participer à cette croissance et cette édification de l'Église. Ensuite, il a dit aussi qu'il y a une grande différence entre la prestation de service et le service pour Dieu. Vous vous rappelez de ça ? Hein, on peut, dans une église, que ce soit ici ou ailleurs, faire de la prestation de service, hein, offrir un service, voilà, et le faire dans les pays anglo-saxons, ils vont jusqu'à payer ceux qui font la louange, ceux qui font, etc. Donc, vous voyez, on peut très facilement, à ce moment-là, glisser dans une prestation de service. Alors, bon, c'est vrai que dans des très grandes églises, ils sont beaucoup sollicités et ils vivent de ça. Hein, donc, je suis pas en train de dénigrer ce qu'ils font. Mais, vous voyez, on peut très bien faire la louange dans un cadre de prestation de service, hein, et pas être forcément dans un appel. Quand on est dans un appel, on sert Dieu comme ceux qui, dans le tabernacle, au temps de l'Ancien Testament, servaient le Seigneur dans des tâches parfois qui n'étaient pas visibles. Donc différencier entre la prestation de service et le service pour Dieu. Est-ce que je suis dans une prestation ou est-ce que je suis dans le service pour Dieu? Ça, c'est important. Ensuite, elle a aussi rappelé que la récompense, si on cherche des récompenses, elle est déjà acquise. Au lieu de chercher des récompenses, prenons celles qui sont déjà acquises, et je le mentionnerai dans la deuxième remarque que je ferai sur le royaume de Dieu. La récompense est déjà acquise quand on est conscient que le Seigneur approuve notre comportement. Ce qui est important dans le service, c'est notre comportement. Ce n'est pas tellement ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, tas de choses. On peut peut-être d'ailleurs, ce sera à l'église de demain, hein, à laquelle je n'aspire pas trop, mais on aura un responsable de louange qui sera un surhumain, c'est-à-dire qu'il aura dans sa tête un ordinateur qui va faire une louange parfaite, en tout cas au niveau musical. Vous voyez, est-ce que c'est à ça qu'on veut arriver ? C'est d'avoir un surhomme, puisque tout le monde rêve de ça maintenant, qui a un ordinateur, donc la musique sera parfaite, le rythme sera parfait, les paroles seront parfaites, vous voyez, voilà, donc on aura une louange parfaite. C'est ça qu'on veut ? Ah, mais c'est vers ça qu'on va. Pas l'oublier. Même si on refuse, c'est ce que les hommes produisent en ce moment et que l'Église adopte. Parce qu'elle trouvera au moment donné un justificatif, hein, que ça vient de Dieu. Faisons attention. Non, ce que nous voulons, c'est que la récompense, elle est déjà acquise. Nous n'avons pas besoin de chercher des récompenses qui sont déjà là. Il suffit de les saisir pour que nous puissions les manifester. C'est en gros ce que Michel, dans ses grandes lignes, nous a rappelé. Il a aussi parlé des dons cachés. Des dons cachés, et j'ai beaucoup aimé qu'elle les a comparés aux globules. Parce qu'il y a des dons. Voilà, je sais que mon père était chaudronnier, il faisait des belles choses en cuivre. Hein. Il avait même des titres au niveau national, comment s'appelle ça, le compagnonnage ou le brevet de maîtrise, etc. Mais je vois ton papa aussi. Hein. En tout cas, il faisait des. Et moi, j'en sais quelque chose parce que quand j'étais petit, je m'enquiquinais. Alors que le mercredi, quand j'étais libre, je voulais jouer avec mes copains, faire des kartings, des machins. On construisait des bateaux télécommandés, etc. quand j'étais petit. Tout ça me passionnait. Mais il fallait que je tienne le truc à mon père pendant toute l'après-midi. Et lui, il tapait. Et puis moi, j'avais rien à faire. Enfin, vous savez, ça me barbait. Moi, ma tête, c'était, je voulais retourner avec mon copain pour faire les bateaux, les machins. Lui, il n'avait pas de père, donc lui, il faisait ce qu'il voulait. Et moi, je le rejoignais, mais voilà, j'étais un peu frustré. Donc, je sais que c'est beaucoup de patience pour arriver à plier une feuille de cuivre qui est plate pour l'amener complètement à faire un vase. Hein. Il fallait la recuire sans arrêt. D'ailleurs, chez moi, j'ai gardé le soufflet avec lequel j'appuyais pour faire chauffer les trucs. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai perdu mon fil. Pour parler voilà, des dons cachés, des talents. Voilà, des talents. Elle a parlé des talents cachés qu'on ne voit pas. Le vase en cuivre, vous le voyez, hein, mais vous ne voyez pas tout le travail qu'il y a derrière pour arriver à ça. Hein. C'est un travail incroyable. Et puis, si vous vous plantez, au dernier moment, vous pouvez avoir une rupture du cuivre, parce que si vous ne l'avez pas recuit, parce que vous n'avez pas senti qu'il fallait repasser au four, vous donnez un coup de marteau et paf, ça se déchire. Et le truc, c'est la poubelle. Moi, j'ai gardé tout plein de trucs qui n'ont pas marché, alors que là, vous voyez le vase tout terminé. Mais ça demande une patience à toute épreuve, ça demande une connaissance, une expertise, une qualification, etc. Mais tout ça, c'est caché derrière le truc que vous voyez. Hein. Et là, dans l'Église, c'est pareil. Mais ce n'est pas caché aux yeux du Seigneur. Les dons cachés ne sont pas cachés aux yeux du Seigneur. Amen. Il le voit. Et c'est ça la récompense, oui. C'est que nous savons que nous faisons plaisir au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas plus important que d'être vu par tout le monde? Et ça, c'est une difficulté pour les dons cachés, parce qu'on peut se décourager. Bon, moi, j'étais en train de me décourager avec mon père, là, parce que voilà, j'ai jamais eu le droit au coup de marteau. C'est lui qui l'est donné. Bah, parce que je n'avais pas l'expertise. J'aurais fait des dégâts, forcément. Il n'avait pas son expertise pour dire maintenant, hop, on va au four, on revient, on fait le recuit, on revient. Bon. Je ne savais pas pourquoi il le faisait à ce moment-là, mais lui, il le savait. Voyez. Donc, je participais à quelqu'un, un maître, qui avait la capacité de faire quelque chose de beau. Ben, nous, nous participons à un maître qui sait ce qu'il fait, non ? Hein ? S'il nous arrête en disant, là, tu t'arrêtes, là, tu fais ceci, tu fais cela. Voilà. Si on est obéissant, on va pouvoir participer au chef-d'œuvre que lui est en train d'accomplir. Voyez-vous ? Et c'est cela, les dons cachés. Et il a parlé de deux types de dons cachés, c'est lesquels ? Les dons cachés. Et les a comparés à quoi ? Les globules. Alors il y a quoi comme globules ? Qu'est-ce qu'ils font les rouges ? Voilà, ils apportent l'oxygène. Et les blancs ? Ils mangent les virus. Alors une fois de plus, Olivier n'est pas là, mais elle a vu une vidéo, il faudra que Olivier... Pardon ? C'est Samuel ? Ah, c'est Samuel. Qui a une vidéo qui, on voit qu'il mange les virus. C'est parce qu'avec les microscopes, maintenant, ils ont pu animer des vidéos où vous voyez réellement les globules blancs qui mangent les virus. Donc, il y a deux types de globules, les globules rouges et les globules blancs, qui sont cachés. Ils sont dans le sang, mais ils sont cachés. Il faut un microscope pour les voir. Donc, les globules rouges, elles apportent l'oxygène où ? Où ? Où est-ce qu'ils apportent l'oxygène ? Attends. Pardon ? Dans tout le corps. Hein. Dans tout le corps, pas uniquement le cerveau. Dans tout le corps. Si votre sang il ne coule pas dans vos orteils vont se nécroser. Ok ? On est d'accord là-dessus ? Il n'y a pas que le cerveau. Donc dans tout le corps, il libère de l'oxygène partout, parce que l'oxygène, c'est la vie. Okay. Donc vous voyez, il n'y a aucun membre qui est épargné. Et c'est une belle image, une belle analogie pour le corps de Christ. Voyez-vous ? Il n'y a absolument aucune partie du corps qui ne doit être oxygénée. Allô ? Des parties que vous ne voyez pas, mais qui ont besoin d'être oxygénées. Sinon, il faut les couper. Mais le Seigneur ne coupe pas dans le corps, parce que son corps, il est beau. Son corps, il sait comment le construire. Nous sommes devant un maître qui maîtrise son œuvre. Amen. Et nous participons à cela. Et chacun de nous, et dans ces dons cachés dont parlait Michel, eh bien, l'oxygène est amené partout. Et c'est ça qui donne la vie au corps. À côté de ça, il y a les globules blancs. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent les virus. Dites-le, hein, parce que comme ça, ça rentre. Ils mangent les virus. Comme je vous l'ai dit, je ne vous apporte rien de nouveau. Ça a été fait. Mais c'est important qu'on le digère, comme les vaches qui digèrent les choses, pour le mettre en pratique. Alors ? Donc le virus, vous croyez que vous êtes en dehors de tout virus ? Non. Donc vous êtes affecté par des virus. Même en étant chrétien ? Non ? Oui. Donc, vous êtes affecté par des virus biologiques, mais spirituels aussi. Vous croyez que vous êtes affecté par des virus spirituels ? Oui ? Bon, est-ce qu'il faut les laisser dans le corps ? Il faut les détruire. Donc chacun de nous aussi peut être un destructeur de virus. Comment ? Mais en étant le gardien de son frère. Donc c'est important, pas uniquement que le pasteur ou les enseignants, ceux qui passent, ils prêchent sur les virus, mais que chacun de nous puissions aider à détruire nos virus, le virus des autres, etc., des fausses doctrines, des faux enseignements, des choses qui vont nous amener dans le mur, tôt ou tard, etc., voilà, et tout plein d'autres applications. Je vous encourage, d'ailleurs, à partir de... parce que là, je vais m'arrêter, je ne vais pas dire plus, mais d'en parler entre vous, et surtout dans les groupes de maison. Je sais qu'il ne marche pas très bien les groupes de maison, donc il faut prier pour que... Il y a tous les membres qui participent à des groupes de maison, parce que sinon il faudra créer encore une autre structure pour que encore tout le monde se voit. Et il faut qu'à un moment donné, voilà, le corps soit vivant au niveau de tous les membres. Bon. Donc ça c'est un souhait pour 2020 de mon cœur de pasteur. Pour que dans ces groupes-là, vous parliez de ça. Vous parliez de ça. Parce que c'est ça qui va donner la vie à l'Église, de s'approprier les enseignements pour les mettre en pratique. Et que, voilà, que ce soit des virus ou que ce soit de l'oxygène, que tout ça, ça circule, hein, et que les virus soient mangés et que l'oxygène soit distribué. Que les virus soient mangés et que l'oxygène soit distribué. Que le virus soit mangé et que l'oxygène soit distribué dans tout le corps. Amen. Oui, je décolle pas très haut hein, aujourd'hui. Hein. Si vous comprenez pas, dites-le moi. Mais c'est juste une répétition de ce qui vous a déjà été enseigné. Vous dites amen. Voilà. Donc les dons. Et là, je veux juste terminer par citer certains dons hein, qui sont en la page 551. Du livre que plusieurs d'entre vous ont, et je pense que dans chaque groupe de maison, il y aura un livre à disposition, à la page 551. C'est appelé les charismata, donc les différents dons, mais ils ne sont pas exhaustifs à la page 551. Donc, dans vos groupes de maison, continuez à creuser ça pour trouver tous les dons auxquels vous pensez, cachés ou pas cachés, visibles ou pas visibles. Donc il y a des dons de fondement, apôtres et prophètes, qui sont les fondements de l'Église et les fondements de la révélation. Il y a les dons d'édification, les bergers, les docteurs, l'exhortation, le parler en langue, l'interprétation, etc. Les dons d'évangélisation, l'évangéliste, reçoit un don de Christ hein, pour apporter l'évangile, pour le mettre à disposition. Moi, j'étais au bénéfice d'Alain Choiquet, c'est incroyable cette capacité. Quand on allait avec lui dans les facs ou dans la rue, je sais qu'on s'était, pas Bourg-la-Reine, comment ça s'appelait la Nation, là, les gens, ils venaient comme des poissons, quoi. Vous voyez les poissons, même des gens dans la rue, quoi. Quand ils parlaient, c'est incroyable, quoi. La façon dont ils apportaient l'évangile avec simplicité, et hop, ils faisaient un appel, les gens levaient la main et ils se convertissaient, quoi. Bon, j'ai vu ça, c'est incroyable. Don d'évangéliste, don de libération, c'est le discernement des esprits pour libérer, hein. Discerner les esprits, paroles de sagesse, don de puissance. Il y a la foi, les miracles, la guérison, la délivrance. Les dons spécifiques de service, de direction, de présidence, d'assistance, de miséricorde, de libéralité. Hein? Ensuite, des talents naturels que Dieu utilise aussi, qui doivent être sanctifiés, c'est-à-dire consacrés à, séparés du monde et consacrés à. Donc, tout ça, ça nécessite de discuter de tout ça pour pouvoir l'appliquer. Il faut que le dimanche, quand on se réunisse ou d'autres rencontres, tous ces dons se manifestent. Parce que dans 1 Corinthiens 12, qu'est-ce qui est marqué dans 1 Corinthiens 12? Moi, ça a marqué quand John Wimber enseignait ça. Toute ma vie, je me rappellerai le jour où il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quand vous vous réunissez, la main dansante de Dieu distribue tous ses dons. La main dansante de Dieu. Quand j'ai dit ça à Soda Pop et Christine, on ne connaissait pas ce verset. Puis maintenant, c'est le fondement. Ils ont dit, c'est incroyable ce que tu nous as apporté quand tu nous as parlé de ça. Je dis, c'est pas de moi, c'est de Wimber. Wimber, c'est peut-être de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais toujours est-il que la version exacte de ce passage, c'est la main dansante de Dieu qui distribue les dons à qui il veut. Vous voyez, si lui est évangéliste, il aura peut-être un don de guérison à ce moment-là. Vous voyez, la main dansante de Dieu distribue des dons spécifiques à un moment donné sans que ce don ni vous appartienne ni fasse partie de votre ministère. Vous voyez, c'est des dons. À un moment donné, tu peux avoir un don de guérison, à un autre moment, le dimanche d'après, un don de vision, un don de révélation, un don. Voilà, c'est ça. Donc il faut s'attendre. Tout à l'heure, on va faire un sketch pour montrer comment il faut s'attendre à ces dons pour les manifester. Donc ça, c'est deux enseignements qu'on a eus, qui sont enregistrés là-bas. Je vous encourage à les reprendre. Moi, j'ai trouvé ça hyper génial. J'ai pris, voilà, la façon dont Michel a apporté ça sur les dons. La deuxième chose, c'est ce que certains ont eu le privilège de vivre, c'est l'étude du royaume de Dieu au travers de la théologie de l'Ade dont je vous ai parlé. Et sachez que pour moi, l'Ade, c'est pas une idole. Contrairement à ce que vous, certains peuvent penser ou pas penser, ça m'est égal. L'Ade, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé parce qu'il a reçu un don. Et si vous regardez l'introduction de cette théologie, il dit que si l'Ade n'avait pas existé, les évangéliques n'existeraient plus. C'est pas moi qui l'ai dit. Pourquoi ? Parce que les évangéliques n'ont jamais eu de théologie. Ils ont toujours été en réaction contre les luthériens, réaction contre les calvinistes, réaction contre les pentecôtistes, réaction contre ceci, contre cela, etc. Ça, c'est pas une théologie. Vous voyez ? C'est pas une théologie, ça. Théologie, ça veut dire la science de Dieu. Il y a une science de Dieu. Vous croyez pas ? Ben, cette science de Dieu, Dieu a permis que l'Ade puisse la décrire parce que c'est une doctrine évangélique. C'est-à-dire toute la cohérence part d'une doctrine évangélique. Et pas une doctrine de prédestination, comme les calvinistes, une doctrine de ceci, une doctrine de cela, etc. C'est quoi la doctrine évangélique ? Vous ne connaissez pas, là. Je suis désolé, là, c'est peut-être... Mais enfin, je me suis déjà répété. C'est de croire en l'inhérence biblique. C'est quoi l'inhérence ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune faute dans la Bible. Vous y croyez, ça ? Vous y croyez ? Qu'est-ce qu'il croit ? Est-ce que vous arrivez à lire la Bible en ne trouvant aucune faute dans la Bible ? Moi, je vous donne mon... Je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Parce qu'il y a des versets très compliqués. Très, très compliqués. Moi, je ne suis pas capable. De trouver aucune faute... Alors, bien sûr, je peux dire qu'il n'y a aucune faute. Mais quand j'explique le truc, je suis en train de faire des fautes. Vous voyez ? Parce que c'est complexe. Oui ? Non. Non, non. C'est sola scriptura qui remonte à la réforme. C'est pas l'inhérence de la Bible. L'inhérence de la Bible, ça remonte aux déclarations de Chicago. Chicago, les évangéliques se sont réunis du monde entier et ils ont fait ces déclarations, et c'est très récent. C'est il y a 40 ans, je crois. Parce que les évangéliques, justement, qui voulaient qu'il y ait une théologie solide, ils en ont eu marre d'être toujours contre ceci, contre cela, etc. Et donc, ils ont déclaré, ils ont dit, nous croyons que la Bible est sans erreur, donc inhérence, sans erreur. Et à partir de là, la théologie doit montrer que tous les versets qui sont difficiles peuvent s'expliquer sans qu'il y ait l'erreur. Donc toutes les contradictions, les paradoxes, les antagonismes, il y a tout plein d'antagonismes en même temps qui sont révélés, eh ben, il faut les expliquer. Et ça, c'est pas évident. Et quelqu'un comme Blocher, il part de là. C'est un évangélique. Alors, il peut avoir des défauts, mais de toute façon, tout le monde en aura des défauts. Et il n'arrive pas à tout expliquer, parce que c'est absolument impossible à un raisonnement humain d'expliquer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, du coup, on est confronté à cette difficulté. Et là, d'a essayé. Mais pas tout, hein, parce qu'il y a des fois des versets, je cherche, et il ne les a pas traités, parce qu'ils sont trop difficiles encore pour d'autres. Mais en tout cas, il a réussi, et c'est ce qu'on a vu hier, à définir le royaume avec une cohérence et une unité biblique. Et ça, c'est important. Et pour moi, c'était une révélation quand j'ai préparé le cours d'hier, pour ceux qui n'étaient pas là, mais je pourrais vous donner une chance pour d'autres d'avoir ce dernier cours. Il n'a pas été enregistré parce que je ne suis pas encore au point pour le redonner de manière claire, nette, précise, mais ça viendra. Et en fait, cette vision qui est donnée sur le royaume, c'est la foi. C'est Hébreux 11. Hébreux 11, la foi, on peut la comprendre comme une confiance Paul va définir la foi comme une confiance. Alors qu'Hébreu le définit comme une vision. Tout à l'heure, on a parlé d'une vision. C'est Philippe qui a porté le passage. Une vision. Élisée ne voyait pas et il y voyait. C'est la vision. Est-ce qu'on voit les choses invisibles? C'était l'invisible. Élie était tranquille parce qu'il voyait tous les chars, toute l'armée, etc., qui était impossible à vaincre pour Israël. Élie, il voyait une armée céleste. Élisée ne le voyait pas. Ben, c'est ça. Le royaume, c'est ça. Et le diagramme que j'ai montré à ceux qui étaient là hier, et qui est en fait la vision que je porte depuis 20 ans, et que en fait, c'est la même. C'est la vision de la foi. C'est de voir l'invisible comme s'il était visible. De voir les choses qui seront comme si elles sont aujourd'hui. De voir les choses qui étaient comme si elles étaient présentes. C'est l'aujourd'hui de Dieu. C'est aujourd'hui, nous voyons les choses comme Dieu les voit dans le passé, dans le futur, dans l'éternité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et Chouraki l'a très bien aussi traduit, de la même manière que King James l'a très bien traduit, la foi est la substance de ce qui est espéré. La foi est la substance de ce qui est espéré. Vous voyez, on sort un peu de la foi à la confiance. Ça ne change rien à la confiance. Mais ça donne une vision de la réalité. La foi est la substance de ce qui est espéré, c'est Hébreux 11.1. La preuve de ce qui n'est pas visible. La preuve de ce qui n'est pas visible. La preuve. Élie a dit, la preuve, regarde, c'est là. Moi, je le vois. Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit. Ouvre-lui les yeux pour qu'il voit. C'est là. Et si on va gagner, c'est parce que cette armée va combattre. Amen. Si on a une foi de ce type, on n'a peur de rien. Parce qu'on sait que Dieu, on est dans le repos. Et on a dit, Seigneur, tu combats pour nous. Alors ? Vous voulez cette foi ? Ben c'est ça. C'est ça le royaume. Et c'est ça qui est dans la parole de Dieu. Et qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas la théologie adaptée. Parce qu'on cherche un tas de choses, alors que la parole de Dieu est là. Simplement, on dit, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Tous ces paradoxes, ils s'expliquent. Parce que c'est le passé, le présent et l'avenir qui sont une seule et même chose. Donc, je ne vais pas aller plus loin, puisque j'ai dit, je vais donner plein d'enseignements. Ceux qui étaient là hier, ils savent de quoi je parle. Et j'espère que les quadrats, que je n'ai pas trop vus, ils puissent accéder à ça. Parce que si les quadrats, alors quadragénaire c'est entre 30 et 50, disons c'est les 20 ans, nous on avait aussi, c'est votre âge, hein, les quadrats, on avait 30 ans, et à 30 ans, ben, comme disait Michel, on a eu nos enfants, à 30 ans on a eu notre maison, à 30 ans on a monté un groupe de jeunes, à 30 ans, voilà, on n'a rien délaissé de la vie spirituelle, mais en même temps on a fait tout le reste. On ne se montre pas en héros, on dit simplement tout est faisable avec le Seigneur, à des degrés peut-être différents suivant nos capacités, peu importe. Mais les quadrats aujourd'hui, s'ils ne prennent pas la relève, cette Église ne pourra pas vivre, puisque c'est eux qui iront dans les 30 ans qui viennent. 2050, je ne pense pas que je serai là, mais les quadrats seront là. Et c'est eux les cadres. Et les cadres doivent avoir cette foi, Hébreux 11, de voir les choses comme ce matin, et Philippe a été conduit parce que c'est exactement ça. Le royaume de Dieu, on le voit. On doit le voir. Amen. Et en le voyant, on n'a pas peur. Parce qu'on sait que toutes les puissances sont sous les pieds de Jésus. Il est dit que nous sommes assis dans les lieux avec lui. Et si vous voyez le diagramme, ceux qui voient le diagramme, l'esprit est assis dans les lieux. Au-dessus et pas en dessous du deuxième ciel. Amen. Voilà, donc la dernière chose que je voudrais nous rappeler, c'est Marol. Alors pour Marol, j'ai besoin de 4, pas volontaires parce que je vais désigner 3. J'aimerais qu'Hélène puisse venir, Colette et Marie-France. Je veux bien. Pour faire un sketch. sketch, c'est-à-dire une esquisse, un dessin, ce que vous voulez, vivant, pour montrer ce que Dieu nous a appris avec Marol. Et je demanderai à quelqu'un d'autre, peut-être Rémi, je vois qu'il est partant. voilà. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai compris. Voilà, ce que moi j'ai compris de l'enseignement de Marol, qui pour moi est un cadeau du Seigneur, d'avoir accepté il y a 3 ans, quand je crois que c'est Emmanuel qui m'a poussé, qui m'a aidé aussi à faire venir, puis d'autres, hein, à faire venir... Toi aussi. Non, je ne vais pas t'oublier. Tu as été un instrument caché aussi. Enfin bref, ce qui est important, c'est qu'ils sont venus et qu'ils ont persévéré 3 ans de suite à venir à la même époque. Et là, j'avoue que la mayonnaise a pris. Hein. Au début, ce n'est pas évident pour moi d'accepter que la danse soit enseignée dans l'Église. J'ai rien, vous connaissez ma souplesse, que des chrétiens aillent apprendre la danse chrétienne, etc. Ce qui a été fait en son temps, Marie-France connaît ça depuis longtemps, avec Gagnère, etc. Après, il y a Christelle, etc. Mais Noémie, voilà, j'ai oublié personne, tout le monde. Mais moi... Voilà, moi j'étais pas persuadé que c'était indispensable pour l'Église. Or là maintenant, non seulement je suis convaincu, mais on va vous démontrer par le sketch que c'est ça qui nous permet d'absorber l'enseignement que j'ai essayé de vous donner avec beaucoup de difficultés toute cette année où j'ai eu des critiques et je comprends certaines manières parce que ça vous paraît théorique, mais vous allez voir que c'est pas du tout théorique. C'est hyper pratique. Et si on le met en pratique, c'est hyper changeant pour notre Église. On y va ? Je vais vous dire ce que moi, j'ai reçu de Marol suite à leur passage et qui a confirmé tout ce que je pense de la manière dont on devrait vivre. Alors, je vais commencer par le premier sketch qui va décrire qui est Dieu. Alors lui, c'est le Père. Tu regardes toujours, voilà, c'est ça. Le Père, le Fils, peu importe là. Le Fils, le Saint-Esprit. Voilà. Christine et Soda Pop sont tout à fait en accord avec nous. C'est la théologie évangélique. Je reviens sur la doctrine évangélique. Doctrine évangélique qui croit, pas qu'elle d'ailleurs, la Trinité. Vous voyez la Trinité ? C'est dans la Bible ? Non, c'est pas dans la Bible. Voilà, c'est pas dans la Bible. Donc on va, c'est bien. Non, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Ah oui, non. Je commence par le béaba. Hein. Un peu pour vous choquer aussi. Voilà, pour pas que vous vous endormiez là. Parce que là, c'est important ce qu'on va faire. Soda Pop et Christine partagent ça avec nous. Ça y est, pas de souci. Moi aussi, je vous ai enseigné là-dessus. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est qu'un seul Dieu. Waouh. Difficulté commence. Hein. Et on est dans le raisonnement. Il faut aller au raisonnement trialectique, parce que le raisonnement dualiste, ça ne marche pas. Le raisonnement dualiste dit, je veux bien savoir qui lui il est. Donc, du coup, je ne sais pas. Et le dualisme dit, bon, bah, si c'est ça, c'est pas ça. Donc toi, tu es, voilà, toi, tu n'es pas le Fils, donc tu n'es pas le Père, mais qui c'est ? Et vous êtes tous un ? Mais je comprends rien. Vous voyez ? Je comprends rien. Un Dieu et 3 personnes. Ben voilà, c'est la difficulté de la Trinité. En plus, chaque personne de la Trinité a une fonction. Et ils ne sont pas mélangés. Lui, le Père, il a la fonction d'initier les choses, d'avoir l'idée de faire quelque chose, d'avoir l'idée d'un projet, c'est l'initiateur. Okay. Le Fils, c'est celui qui est missionné par le Père, qui missionne le Fils, et qui est à l'origine de toute création. Toute la création est en Christ. Colossiens le signale absolument parfaitement. Donc, d'où dans la création, on peut trouver la trace de la manifestation du Fils. Le Saint-Esprit, il est aussi aux ordres du Père et du Fils, mais le Fils qui envoie le Saint-Esprit, qui obéit et qui, par la puissance, toute la puissance de Dieu est manifestée par le Saint-Esprit. On le voit en Genèse, on le voit tout le temps, on le voit à la Pentecôte, on le voit, etc. Qui, lui, il manifeste la puissance dans tous les domaines et surtout dans le croyant, qui habite le croyant. Alors maintenant, comment ça fonctionne, la Trinité? Ben, la Trinité fonctionne par les relations. C'est en fait l'unité dont on parle, c'est l'amour. C'est pour ça que cette communauté de trois personnes, c'est une communauté d'amour. Et en fait, c'est les relations. Le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père. Ça, c'est Jean 17. C'est extraordinaire quand vous voyez l'amour que le Fils a vers le Père et que le Père a vers le Fils. Ce qui fait que le Fils, il va aimer le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va aimer le Fils, qui lui va transmettre cet amour à la création qui a été faite par le Fils. Allô ? L'amour de Dieu, Jean 3,16. Car Dieu, un seul, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est donnée par le Fils, le Saint-Esprit. Parce que le Fils, aujourd'hui, il est dans le ciel. Ok ? Mais il a envoyé son Esprit sur la terre pour emmener les croyants dans le ciel. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans la théologie maintenant, mais juste pour vous dire que ça, Soda Pop et Christine le croient. Est-ce que vous le croyez ? Ok. Donc on est sur des bases solides. On va à la suite de l'enseignement, qui est une révélation, qui était pour moi, et qui montre qu'on a la même vision et qui va transformer l'Église et les croyants. C'est l'Église. Alors, alors toi tu vas rester là, d'accord. Tu vas représenter Dieu maintenant. On considère qu'il est, il est tout seul et c'est Dieu maintenant. Alors, ici... Là, on va simuler l'individu. Je ne vais pas aller jusqu'à l'Église, parce que l'Église, c'est une somme d'individus, donc c'est la même chose. C'est l'individu. L'individu, il y a un esprit. Toi, tu te mets... Non, toi, tu viens pour faire l'âme. Non, non, tu restes là. Faire l'âme. Et toi, tu vas faire le corps. Il est dit que dans la Bible, et nous croyons en la tripartition de l'être humain, et là aussi, il explique dans les différents chapitres qui concernent qu'est-ce que c'est que l'être humain. L'être humain est un esprit, une âme et un corps. Sauf que c'est un seul individu. Hein, vous tenez ensemble, donc c'est un seul individu. Mais une fois de plus, on est confronté à trois choses. Alors, ce n'est pas des personnes, c'est des choses. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé l'homme, donc l'individu, homme, femme, à son image. Aussi bien un que trois. Alors ? Ça va, c'est pas nouveau, hein, je vous ai dit. Mais sauf que Marol m'a aidé, moi, concrétiser la théorie. Ah, c'est d'autant plus facile de faire un sketch que quand les gens, ils savent, pas besoin d'expliquer, ils veulent faire tout seul. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Joshua, par exemple. Joshua, quand il, déjà à 2 ans, l'année dernière, quand il donnait un coup de main, je dis, mais attends, ce gamin, c'est pas possible, quoi. Il prend les trucs du bon côté. Ça prend 30 ans pour un professionnel de savoir qu'il faut le prendre comme ça. Voilà, c'est agréable, quoi. Je lui demande de faire un truc, je lui dis rien, tiens, il prend du bon côté, bah, c'est bon, le travail, il avance, vous voyez. Besoin d'expliquer, moi j'aime ça. C'est pour ça que je ne suis pas pédagogue, parce que j'aime que les gens comprennent tout seuls. Mais bon. Voilà. Ok. Bon, ceci étant, on va faire le sketch. Comment fonctionne l'individu par rapport à la louange, par exemple, par rapport à l'adoration, par rapport à ce qu'on veut faire dans Moving Glad, par exemple. Okay. Et pourquoi on croit que le mouvement traduit vraiment l'adoration. Et comme Marie-France nous l'a toujours répété dans les CC grecs, que dans l'Ancien Testament, tout ce qui est louange, ce sont des mots qui sont traduits par des actions du corps. Le corps, l'esprit et l'âme. On va voir comment ça va fonctionner et comment Marol, que moi j'ai compris, peut-être vous avez compris autre chose, mais je vais vous montrer que ce que moi j'ai compris quand ils étaient là, qui est puissant. Alors, on va faire le sketch. Donc toi, admettons que tu sois Dieu, mais tu sois aussi le Saint-Esprit. Hein ? Ça vous oblige. C'est pour ça que je n'ai pas voulu en prendre trois. J'aurais pu, mais pour vous obliger à réfléchir. Toi, tu es Dieu. C'est dimanche matin, le 1er décembre, à 10h, ça commence pile à 10h, la louange. Et Dieu, il veut dire quelque chose à l'Église. Vous croyez ça? Que Dieu veut dire quelque chose à l'Église? Non? Non, parce que ça commence comme ça. Si Dieu veut rien dire, on fait la louange, et puis on bouge, et puis on fait... Bon. Donc, vous croyez que ce matin, ce dimanche-là, mais le dimanche, tous les dimanches, Dieu veut dire quelque chose? Ah, il n'y a qu'une personne qui dit amen. Ok, non, mais je vous joke là. Donc Dieu veut dire quelque chose. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont un conseil, ce qu'on appelle le conseil de Dieu, qui est décrit dans l'Ancien Testament. Le conseil de Dieu dit qu'est-ce qu'on va dire à l'église d'Aubergenville? On veut dire quelque chose. Enfin, voilà, il sait ce qu'il veut dire. Bon, je vais pas lui faire réfléchir. Donc il sait. Et le Père, le Fils, va demander au Saint-Esprit de le faire. C'est d'autant plus facile au Saint-Esprit de dire à l'Église que l'individu qui est là, c'est un chrétien, né de nouveau. Donc l'Esprit, il est déjà rempli du Saint-Esprit. Donc ce lien existe déjà.
C'est ça.
Ce lien existe déjà. Voilà. Ce lien existe. Ok ? Alors, pour l'instant, enlevez vos bras, comme ça le sketch sera plus facile à expliquer. Voilà, voilà. Ça, c'est un chrétien, dont l'esprit est régénéré par le Saint-Esprit, donc qui reçoit les messages, d'autant plus qu'ils sont en communion sans arrêt. Sauf que l'esprit peut être un peu éteint. Il n'est pas au top, donc voilà. Mais il reçoit. Il reçoit. Dans tous les cas, on reçoit de l'esprit, sachez-le. Sauf que c'est le discernement. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut être vif d'esprit pour entendre la voix du Saint-Esprit. Donc, toi, tu vas dire quelque chose et tu vas écouter. Dis-lui à l'oreille quelque chose. Ouais. Bon, on fait un sketch en temps réel. Hein. J'ai rien préparé. Hein. Voilà. Donc, voilà, le Saint-Esprit dit aux chrétiens. Donc un chrétien lambda hein, dans l'église va lui dire quelque chose. Hein, va lui dire, voilà... Oui, peu importe, mais je continue à parler. Donc toi tu reçois, donc l'individu reçoit hein, l'esprit. Tiens Jérôme, je compliquais un peu le sketch, mais c'est juste, ça me vient juste à l'esprit. Donc Jérôme est l'individu en question qui représente le corps, l'âme et l'esprit. Hein. Donc lui... Par l'esprit, il entend ce que l'esprit entend, d'accord ? Donc je ne te demande pas d'écouter parce que tu dois discerner ce qu'elle reçoit. Mais bon, c'est compliqué. Toujours est-il que, bon, allez, 1 et 3. Donc tu as reçu du Saint-Esprit. Maintenant, la grande difficulté, c'est ce que j'ai compris, c'est quoi ? Vous commencez à deviner, là.
Vous commencez à deviner.
C'est l'âme. Le gros problème,
Mais tu as
juste
bien
un tout petit peu à côté. Juste...
Voilà.
Voilà. Alors, elle est bien habillée, elle, rouge et noir, là. L'âme a des problèmes. Elle est partagée. Hein? Pourquoi? Parce que l'âme, elle est en même temps sur la terre, les pensées, les sentiments, les affects, les problèmes de la semaine, les problèmes au boulot, les problèmes avec voilà, les enfants, vous pouvez rajouter tous les problèmes. Donc l'âme, elle arrive le dimanche matin, voilà, tout ça, voilà, etc., elle discute, machin, etc. Il y a David qui dit, attention là, on va, voilà, venez, on va louer, bon, etc. Donc l'âme, elle n'a pas très envie. Le sketch il est dynamique là. Chacun a son idée. Donc l'âme, elle doit écouter l'esprit. Donc l'âme, elle doit écouter l'esprit. Et voilà. Non, tu peux le lâcher. Non, vous restez toujours ensemble parce que tu. Eh oh, tu vas pas entrer dans l'apostasie là. Ok. Tu vas pas renier l'esprit. Donc l'âme, elle va écouter ce que tu lui dis.
Oui.
Voilà. Mais là, c'est très difficile parce qu'il faut que l'âme soit disponible et il faut que l'âme puisse discerner ce que l'esprit a reçu du Saint-Esprit. Ok. Donc il y a là un lien qui va se faire, mais qui va être brouillé par un tas de choses dont l'âme n'est pas disponible à recevoir. Déjà, un recevoir. Écouter, recevoir. Voilà. Ensuite, après... Non, attends, c'est pas fini, tout ça. Non, c'est pas fini, c'est plus compliqué que ça. Bon, l'âme, admettons, qu'elle a reçu un petit peu de l'esprit, pas tout, mais bon, ça a quand même passé. Maintenant, qu'est-ce que l'âme doit faire?
Communiquer au corps.
Avant de communiquer, quoi? Si vous avez bien écouté Soda Pop, moi j'ai bien écouté, dans le mouvement, hein, parce qu'on va vers le mouvement.
Obéir à ce que j'ai entendu du Saint-Esprit.
Déjà le recevoir,
je pense. Recevoir.
Et donner.
Ah oui, c'est
vrai. Donner.
Et avant de donner.
Obéir.
Non, vous oubliez quelque chose de...
Décider.
Discerner.
Discerner, c'était d'abord là.
Ah d'accord.
C'est ça.
Accepter, mais c'est obéir, ça. C'est accepter de faire.
Enfin, ah ben oui, mais
je sais pas ce que
ça. Non, vous allez voir que c'est tout à fait bien.
Adhérer.
Ah, tu commences à être chaud là. Il brûle. C'est quoi? Dans toute action, avant l'action, il y a quelque chose d'important qui doit se faire par rapport à ce qu'on reçoit. C'est interpréter. Ben oui. Parce que l'interprétation de quelque chose qu'on reçoit, ça passe par un filtre, ça s'appelle le filtre de l'interprétation, qui donne du sens à ce qu'on va faire. Si vous êtes dans le non-sens, c'est-à-dire vous recevez, voilà, il faut sauter comme un cabri. Ok, bah vous allez dire au corps, tu sautes comme un cabri, mais s'il est incapable de sauter comme un cabri, parce que voilà, c'est pas possible, vous êtes dans le non-sens, vous voyez. Donc l'interprétation, la grille d'interprétation, et c'est vrai dans le monde, c'est vrai pour les chrétiens, la grille d'interprétation. Tout à l'heure, je parlais de la doctrine chrétienne. C'est une interprétation, l'inhérence biblique. Donc si vous prenez cette grille-là, vous ne pouvez pas expliquer n'importe quoi, n'importe comment, puisque c'est incohérent par rapport au reste. Donc, effectivement, si vous sortez un verset du contexte, vous avez raison. Mais l'interprétation, ça veut dire qu'il faut que ce soit cohérent avec l'inhérence biblique et avec le salut et avec tout ce qui est cohérent que Dieu fait. Donc l'âme a une grosse difficulté, une grosse difficulté. Un, c'est d'écouter, un, c'est d'être prêt, et puis d'interpréter. Parce que ce que lui dit l'esprit, c'est assez abstrait, c'est assez ouf, ça peut être un truc, voilà. Wow, l'esprit me dit ça, de faire ça, wow, c'est pas possible. Quoi. Il faut que, voilà, demain, il faut que, je sais pas, il faut que je quitte ma maison. Voilà, est-ce que c'est vraiment demain? Est-ce que c'est demain parce que c'est dans un an? C'est la grille d'interprétation. Non, ça vous parle là? Enfin, c'est ce que j'ai compris. Hein. Bon, donc l'âme, c'est extrêmement difficile de discerner. Par exemple, je vous donne un exemple. Au point du jour, il y a une prophétie qui, dans l'Assemblée, jaillit. Hein, tu te rappelles cette prophétie ? Dans l'Assemblée, il y a une prophétie qui dit « Tu dois donner ton piano ». Voilà. Est-ce que l'interprétation, c'était bon de te trouver bien en queue, en plus, il fallait donner, à une personne, voilà. Vous voyez, prophétie, autre chose, etc. Dans l'interprétation, c'est de savoir ce que Dieu veut à ce moment-là, mais en discernant et en comprenant. Donc il faut comprendre, c'est reprendre en soi, comprendre. Donc il y a des langages, des symboliques, des choses comme ça. Souvent c'est symbolique qu'on reçoit dans l'esprit. Et ensuite après il faut le traduire. Et le traduire de manière à ce qu'il y ait des ordres qui soient donnés au corps. Parce que l'âme et le corps sont indissociables. Le corps, s'il est sans âme, c'est un cadavre. Et l'âme sans le corps, c'est un fantôme. Donc l'être humain, c'est esprit, âme et corps. Est-ce que vous arrivez à voir ce que moi j'ai vu quand ils étaient là? C'est ça que j'ai vu. Et donc le corps, lui, va agir sur les ordres de l'âme. Puisque le corps tout seul, voilà, c'est un cadavre. Mais il est animé par le souffle de la vie propre. Ça, c'est la vie propre. Ça, c'est la vie de l'esprit. Et ça, c'est le corps. Et les philosophes disaient, il faut enlever le corps, voilà, enlève le corps, donc il faisait un fantôme. Ça, c'est l'abstrait. Donc vous enlevez le problème, entre guillemets, voilà, ça c'est la philosophie. La doctrine chrétienne, c'est non, le corps, on aura toujours un corps, jusque dans l'éternité, sauf qu'on aura un corps de résurrection. Ce corps-là, il sera un corps comme celui de Christ, de résurrection. Mais en attendant, on n'est pas ce corps de résurrection. Donc, il faut que le corps puisse recevoir de l'âme les mouvements. Alors, on va faire un exemple. Oh, voilà. Voilà. Alors, allez-y. Donc, le sketch, il va se dérouler en live devant vous. Le mouvement, c'est que le corps, il exprime le sens de ce que Dieu veut pour ce matin. On recommence.
Oui, mais je veux dire, c'est un peu...
Oui, non, mais pour le sketch...
Abstrait.
Voilà.
Et donc,
non, alors, je vais expliquer le sketch.
Allez, donner un cœur à cœur avec Dieu.
Oui, c'est un cœur à cœur.
Voilà. On va refaire le sketch pour que ce soit... Bon, ils ont bien joué, mais... Ce que je voudrais, c'est que, ici, le corps puisse faire un mouvement. Vous voyez ? Par exemple, je vous fais un exemple, moi, personnellement. Voilà. Quand j'entends un chant, par exemple, que David va prendre, donnons tout au Seigneur. Donnons tout au Seigneur. Bon. Si mon âme est ailleurs, discussion, machin, etc., je ne pourrais pas rentrer dans la louange. Donc, j'entends le chant qui a été inspiré parce que David a prié et a pris ce chant pour ce matin. Donc le Saint-Esprit prépare aussi celui qui fait la louange, bien sûr. Tout ça, c'est une unité. Donc j'entends ce chant inspiré. Donne tout au Seigneur. Donne tout au Seigneur. Je reçois dans l'esprit. Donne tout au Seigneur. Tout au Seigneur, c'est vrai. C'est mon tout, c'est mon bien-aimé. Je suis son bien-aimé, je suis l'amour, etc. etc. Bon. Du coup, elle le transmet à l'âme, qui d'ailleurs est très proche, puisqu'ils sont toujours connectés, et qui entend ça, donne tout au Seigneur. Donne tout, quoi. Je ne vais quand même pas donner ma belle-mère, ou je ne vais pas donner ceci, je vais donner cela. Donc il faut du sens après, pour que le tout puisse aussi coller avec une réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas complètement louf. Voilà. Donc l'âme passe au crible toutes les aberrations qui peuvent venir de ce que j'entends pour lui donner le sens de ce matin. Et une fois que l'âme a reçu, donne tout au Seigneur et va comprendre et va imaginer un mouvement qui exprime ça. Par exemple, le mouvement, c'est de dire donne tout au Seigneur. Et le corps va le faire.
Et c'est là où il y aura la bataille du corps à son tour. Est-ce que j'ose donne tout? Est-ce que j'ose prendre la place? Est-ce que j'ose parce qu'il y a du monde et puis parce que je vais avoir peur? Donc il y a la bataille de l'âme, mais après il y a la bataille du corps qui dit bon, est-ce que j'y vais? Ah ouais, non mais j'ai pas la jupe qui convient. Et c'est là où il y a la suite des batailles.
Vous avez tout compris? Oui, le sketch est parti là. Parce qu'ils sont dedans. Ils sont dedans. Tu peux dire un peu ce qui se passe dans l'âme?
Ah ben, je ne sais pas quoi donner. Je donne tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Et d'ailleurs, c'est là souvent la question que j'ai posée au Seigneur moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire tout, Seigneur? Qu'est-ce que je dois donner? Dis-moi ce que je dois donner. Je ne comprends pas ce que tu veux. Là, j'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Le tout, ça, c'est pour moi un problème, d'ailleurs, personnel. Donc, ça tombe très bien, je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire tout, Seigneur? Mes bijoux, c'est quoi? C'est mon argent? Qu'est-ce que tu veux que je donne? Mon temps? Mes amis? Ma relation, là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut que je te donne? Donc, je suis dans un vrai combat. Mais alors, un vrai, vrai de vrai.
Alors donc tu es un combat, mais comme tu es dans le dimanche matin, donc tu ne peux pas donner tes bijoux à ce moment-là, etc., tout de suite en live, mais tu vas le traduire par ton corps. Donc tu vas prendre le corps, puisqu'il fait partie de toi, hein, parce que sans corps, tu es un fantôme, et avec un corps, tu es un cadavre. Donc le corps, alors tu le laisses libre maintenant, il va exprimer le mouvement de ce qui a été reçu par l'esprit, transmis à l'âme et donné par le mouvement. Et est-ce que vous comprenez mieux ce que moi j'ai compris? Ce que moi j'ai compris. Oui, c'est... Bon, ça peut être autre chose, absolument. Absolument, absolument. Oui, c'est pas de la danse. C'est pour ça que je suis réhabilité avec le ministère Mahal, parce que bon, la danse, bon, autant on amène le monde dans l'église. Non, c'est le fait que, comme ils sont un, c'est une seule personne. Si le mouvement n'est pas accompagné, je veux dire, je peux être ailleurs. Ça nécessite d'être présent. Allô? Pour arriver à ce que le mouvement ait du sens, exprime quelque chose, alors en plus, après, bon, je vais arrêter parce que mon temps est révolu, mais au niveau de l'Église, c'est un mouvement communautaire. Et c'est pas le fait qu'on se copie les uns les autres, c'est qu'on a entendu la même chose et qu'en tant que corps, on l'exprime. Ça, c'est formidable. Et c'est ça que Soda Pop et Christine ont ressenti dans cette église. Mais il faut aller plus loin. Et il faut maintenant le mettre en pratique pour que justement ça ne devienne pas un mouvement mécanique, un mouvement fabriqué, mais que ça devienne là. Ah oui. Alors bien sûr, quand c'est fait... non pas esprit à mes corps, puisque vous avez une seule personne, ça traduit le fait que j'entends ce qui est en train de chanter, ce que Dieu veut me dire au travers du chant, je le reçois, donc ça prend quelques millisecondes, hein, ça, c'est très rapide, quelques millisecondes pour donner l'ordre au mouvement. Voyez-vous, le mouvement... il transmet tout ça. Vous voyez? Ça transmet tout ça. C'est pour ça que quand le mouvement est motivé par tout ça, vous avez quelque chose qui parle. Qui parle à l'auditoire, qui parle à ceux qui sont là, qui parle à ceux qui entendent. Vous voyez? C'est un langage. Alors? J'ai commencé à vous traduire, transmettre ce que j'ai reçu. Ok? Voilà. Donc, vous voyez, on n'est plus dans la séquence où toi tu fais de la danse, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, etc. On est un corps qui devrait être à l'écoute du Saint-Esprit et chaque individu est supposé être à cette écoute pour que Dieu puisse parler à son Église et transmettre ce message. Et que sur la terre, c'est ça, sur la terre, Dieu règne. C'est comme ça qu'il règne. Alors, c'est par notre obéissance, oui.
À Lens, Luc avait dit au début, il dit dans la Bible, il n'est jamais écrit que quand on prie, il faut fermer les yeux. Par contre, il est écrit dans la Bible qu'il faut se mettre à genoux, il faut s'incliner, qu'il y a des choses dans la louange, il faut tous ces gestes dans la Bible ont un sens. Et il y a aussi un sens spirituel derrière tout ça. Et moi, j'ai appris ça à Lens. J'apprends, c'est dur, hein, mettre les... Mais parce qu'il y a du sens derrière. Et je sais que depuis que je le fais, depuis que j'ouvre ma bouche aussi, le fait de parler, le fait de prier à voix haute dans l'église, parce que vous proclamez quelque chose, et ben y a quelque chose qui se déclenche et qui est libérateur. Donc tout ça, ça a du sens. Et c'est un petit...
Si je peux rajouter, et aussi... Oui, c'est écrit nulle part qu'il faut fermer les yeux. Christine et Soda nous ont bien dit, la louange, vous vous regardez, vous donnez en même temps. Et ce matin, c'était fort pour moi, c'est pour ça que je l'ai dit au groupe, je les regardais. Mais quand je regardais mes frères et sœurs, je voyais beaucoup des yeux fermés. Donc peut-être se rappeler que la louange, on donne. Vous vous souvenez, on a fait les mouvements ensemble, en se regardant, en suivant les uns les autres, en respectant ce que l'autre a dans son cœur et qui le donne différemment. Il y en a un qui va faire comme ça, et puis l'autre, il va faire comme ça. Et Dieu aime autant l'un que l'autre, et même que celui qui pourra rien faire, je pense. Hein? Vas-y.
Oui, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, Marie-France, mais n'empêche que on vient devant le Seigneur par la croix. La croix, c'est la verticalité, Eden. Donc on est quand même connecté au Seigneur d'abord, et après c'est l'horizontalité, donc on est connecté aux autres. Donc c'est ce qu'il faut qu'on réussisse à mener, être connecté d'abord avec le Seigneur, parce que c'est lui qu'on vient honorer, qu'on vient célébrer, et inévitablement, on doit être connecté avec les autres parce que c'est la verticalité de la croix. Et la verticalité, il n'y a rien à faire, elle est là et l'horizontalité est là. Et c'est ça pour moi qui est, comment dirais-je, ce qu'on doit réussir à faire. Être à la fois un et avec les autres. Et c'est la croix pour moi ne représente, enfin, entre autres ça. C'est ce que j'ai découvert dans le mouvement moi-même. Dans le mouvement, j'ai découvert ça dans le mouvement. Et ça, c'est vraiment important. Donc on a besoin de temps en temps de fermer les yeux, mais on a besoin de les ouvrir pour être avec les autres. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça que moi, j'ai mis en mouvement, avec l'aide de cette chère Judith, le Notre Père, par exemple, ou des psaumes, je les ai mis en mouvement, pas en danse, parce que j'en suis pas capable, en tout cas pas encore, mais je les ai mis en danse pour donner une vie et un sens. Elle m'a appris, Judith, à mettre du sens dans les gestes. C'est ce que j'ai appris, et sur le c'est l'école de c'est la même école. Voilà.
Donc, juste par rapport à ce matin, j'ai beaucoup aimé, David, quand tu nous as invités, c'était à bénir Dieu, à dire des sujets de reconnaissance quelque part. Parce que David l'avait reçu de Dieu. Il avait transmis à son esprit, son âme était d'accord, et il l'a dit avec sa bouche aussi. Il n'y a pas que les mouvements, il y a aussi le chant, il y a aussi nos paroles. Et je voulais juste insister là-dessus, parce qu'après, lui, il nous le dit, et celui qui va entraîner quelque chose, apporter quelque chose, lancer quelque chose, ben, c'est à nous après, on a entendu avec nos oreilles notre corps, et notre âme et notre esprit a reconnu, oui, ça vient de Dieu, oui, c'est super, je veux le faire. Et mon âme, des fois, elle aura un peu de mal, mais c'est là où mon esprit, comme dans la Bible, on le voit, les psaumes qui disent, allez mon âme, bénis l'Éternel, je fais le choix. Et je fais le choix parce que je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui le veut, et je fais le choix d'ouvrir ma bouche, et je fais le choix de parler, et de me rappeler, de chercher, allez mon âme, secoue-toi, je sais qu'il y a des choses, allez, je sais, et je continue, et c'est là où il y a une partie quand même personnelle, et peut-être que si moi je ferme les yeux, ça va m'aider à me concentrer, et à chercher pour que mon âme ait la victoire, et que mon corps obéisse, quelque part, vous voyez ce que je veux dire? Et après, on va pouvoir se regarder ensemble. Et il y aura des temps où on pourra partager les uns avec les autres tout ce que Dieu a fait pour nous, pour qu'on s'édifie ensemble. Et donc, c'est tellement mêlé, le côté personnel et le côté ensemble. Mais c'est important aussi dans nos paroles et dans nos chants et tout ça.
Oui, quand Marole était là, j'ai dit, je veux pas qu'on fasse des choses mécaniques, parce que les gens qui vont venir, ils vont dire, ils sont fous là-dedans. Oui. Quand c'est mécanique, oui, ils vont dire qu'ils sont fous. Mais quand c'est fait dans cet esprit-là, ils vont vous dire à la fin, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous pouvez leur dire, parce que le Seigneur m'a parlé. Waouh! L'évangélisation est facile. Vous voyez, tout ça, c'est dans l'esprit. Et du coup, vous pouvez amener des gens au Seigneur, au travers de ça, parce qu'ils posent des questions. L'idéal, c'est que les gens posent des questions et vous répondez à leurs questions. Au lieu de dire ils sont fous là-dedans, ils vont dire waouh, c'est quoi ça? Parce qu'ils voient autre chose. Parce que c'est différent que de dire de voir ça, de voir ça, et de voir ça. Vous voyez, c'est différent parce qu'on sent qu'il y a du sens. Ils vont dire, mais vous êtes entraîné? Non, on ne s'est pas entraîné. Ah bon? Alors vous avez fait quoi? De la chorégraphie toutes les lignes? Non, on n'a pas fait ça. Mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que le Seigneur m'a parlé et il te parle aussi. Ah bon? L'évangélisation sur un plateau? Allô? Comme ça, je le vois. Et que j'essaie de vous le transmettre. Vous préférez ce genre de prédication? On va le faire tout le temps.
Le Dieu de victoire. Oui. Et mais tous, enfin moi j'ai eu spontanément dire le Dieu de victoire, c'est-à-dire faire le V de la victoire. Ouais. On pouvait à la limite tous ensemble le faire. Oui, c'est pas compliqué ça, oui. Mais oui. Ça a une puissance d'intercession. Le Dieu de victoire habite en nous.
Alors je sais que tu es une femme de victoire et je remercie le Seigneur pour toi, mais il faut leur laisser le temps. Il faut leur laisser le temps. Non mais ça viendra. Ce qui est important, c'est que vous compreniez le sens de ce que Marole nous a. C'est moi, je l'ai compris ça, mais je ne veux pas vous demander de le faire. Je vais vous laisser le temps. Ce qui est important, c'est d'abord croire, comprendre et agir après. Ok. Donc il faut que ça passe par votre compréhension. Je fais ça pour glorifier le Seigneur. Je fais ça pour être un serviteur de Dieu sur la terre et proclamer sa parole et proclamer son règne ici-bas. Et là, vous avez tout compris et toute l'Église aura tout compris. Et après, tout le mouvement va manifester l'unité. Et l'unité, esprit à mes corps. Amen. On va s'arrêter là et on va prendre la Sainte Seine. Mais j'attends pas vos applaudissements. Ok. Mais...